Voyons donc maintenant la construction de cette pyramide de la mise en œuvre des choix stratégiques. Et pour cela, nous allons continuer l'exemple que nous avons conduit précédemment. Et nous en sommes maintenant à identifier chacun des postes qui est concerné par l'objectif général. Prenons le cas de la secrétaire commerciale. L'objectif général du service est de transmettre dans la journée les commandes aux services concernés. Et cet objectif est intégré dans les objectifs généraux individuels de la secrétaire, puisqu'elle est concernée par cette tâche-là. Donc l'étape suivante consiste à transformer pour ce poste de secrétaire commercial cet objectif général individuel en objectif spécifique individuel. Et je vous rappelle, ces objectifs spécifiques sont une déclinaison d'un objectif général et ils doivent être mesurables, réalisables, contrôlables. Je vous propose deux exemples d'objectifs spécifiques individuels qui ont pu être retenus pour ce poste par rapport à cet objectif général. Le premier, c'est recueillir les bons de commande dans la journée. Et le deuxième, c'est les transmettre dans la journée aux services concernés. Donc, nous avons un objectif spécifique à partir du moment où la secrétaire et son responsable ont analysé ensemble ces deux objectifs et ont vérifié que la secrétaire avait les éléments nécessaires, les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre normalement ses objectifs. Et à partir de là, ça devient un objectif spécifique. Prenons un deuxième exemple sur un autre poste qui est les commerciaux. La démarche est la même que pour la secrétaire. Et cette démarche conduit à déterminer des objectifs spécifiques partant de cet objectif général qui est toujours le même, qui est concourir à transmettre dans la journée les commandes aux services concernés. Et des objectifs spécifiques qui peuvent être retenus pour les commerciaux, ça peut être par exemple remplir les fiches clients et les bons de commande après chaque visite dès la sortie du contact avec le client. Et un deuxième objectif peut être les transmettre chaque jour à la secrétaire commerciale. Donc vous voyez que si les commerciaux atteignent ces objectifs spécifiques et donc respectent ces engagements, je dirais, cela va permettre à la secrétaire commerciale d'avoir les éléments nécessaires pour, à son tour, être en mesure de pouvoir remplir ses objectifs spécifiques. Et quand on ajoute les objectifs spécifiques et que chacun des objectifs est rempli, il y a une forte probabilité qu'on atteigne l'objectif général. Et l'étape suivante, c'est l'élaboration des modalités d'action. Et cette étape consiste, pour chaque objectif spécifique individuel retenu, à définir quelles seront les modalités d'action à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Il s'agit donc de répondre aux questions quoi, qui, comment, où, quand, et d'avoir une description tout à fait précise des modalités d'action. Si nous reprenons l'exemple précédent, je vous rappelle un objectif spécifique individuel de la secrétaire commerciale, recueillir les bons de commande dans la journée. Pour cet objectif spécifique individuel, les modalités d'action retenues peuvent être par exemple, alors si on est dans recueillir quoi, c'est à définir ça, ça peut être l'ensemble des bons de commande signés par tous les commerciaux. Qui les recueille ? Mademoiselle Durand, secrétaire commerciale. En cas d'absence de cette dernière, si l'absence est de moins de 3 jours, elle les recueille à son retour. Si l'absence est de plus de 3 jours, cette tâche est effectuée par Monsieur Dupont, l'un des commerciaux. Précisons le « où ». Alors, dans cette question, il peut y avoir par exemple l'adresse internet utilisée pour adresser ces messages. Il peut y avoir aussi les dossiers physiques ou informatiques dans lesquels la personne stocke ces informations. De la même façon, dans les modalités d'action, les personnes concernées peuvent définir la réponse à la question « quand ». Par exemple, pour les tâches 1 et 2, il peut être défini chaque jour avant 16 heures. Et pour les tâches 3 et 4, chaque semaine, le vendredi avant 16 heures. Voyons le « comment ». Par exemple, « comment recueille-t-elle les éléments ?» Il s'agit de décrire l'ensemble des moyens que la secrétaire utilisera pour cela. Par exemple, elle reçoit par Internet une copie de chaque bon de commande. Pour les commerciaux dont elle n'a pas reçu le document, elle leur adresse un message Internet pour vérifier s'il s'agit d'un oubli. Elle remplit un tableau récapitulatif journalier de chaque bon reçu en indiquant la date, le nom du commercial, le nom du client et le numéro du bon. Elle adresse par Internet ce tableau récapitulatif à chaque commercial concerné avec copie au directeur commercial. Donc voilà des exemples de déclinaison et de construction de cette pyramide. Maintenant, je vous propose que l'on voit comment concrètement mener à bien cette étape. Et je vais vous présenter une démarche en différentes phases. La première phase est déterminer une méthodologie efficace. Pour élaborer un plan d'action efficace pour votre structure, vous allez devoir analyser chaque tâche de chaque personne constituant votre équipe. Cela représente un volume de travail important. Pour rendre cette démarche réaliste et efficace rapidement, je vous suggère la méthode suivante. D'abord, commencez par le haut de la pyramide. Donc, si vous êtes le leader de la structure, commencez par faire l'analyse des tâches qui sont les vôtres. Alors, pour quelles raisons ? Une première raison est, plus vous avez des responsabilités importantes, plus le travail de mise en cohérence de vos missions aura des incidences positives sur l'ensemble de votre équipe. Une deuxième raison, c'est un excellent moyen de tester la démarche et de vous l'approprier. Et une troisième raison, c'est une bonne idée de montrer l'exemple à vos collaborateurs. Donc il s'agit d'une première recommandation qui est commencer par le haut de la pyramide. Une deuxième, formez vos collaborateurs directs à cette démarche. Il s'agit de leur expliquer le fonctionnement de la démarche, de les former. Puis, vous leur demandez de la conduire d'abord sur eux-mêmes, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Et dans un deuxième temps, de faire le relais avec chacun de leurs propres collaborateurs, de les former et de demander à chacun des collaborateurs de faire pour lui-même et pour éventuellement ses propres collaborateurs. Et de cette façon, nous allons descendre, irriguer progressivement l'ensemble de la structure. Et pour chaque personne, vous y compris, il s'agit de commencer le travail par les missions stratégiques. Cette méthodologie vous permettra à la fois d'être et de rester ce que j'appelle le chef d'orchestre de la démarche, donc de la piloter, sans vous occasionner une surcharge de travail qui soit ingérable. Elle vous permet aussi d'associer réellement chacun au processus, ce qui est un facteur essentiel d'adhésion et d'efficacité, et elle vous permet enfin d'avoir des résultats rapides. Et ces deux derniers points sont indispensables pour entretenir la détermination de chacun. Et les résultats seront d'autant plus rapides et importants que vous aurez mené chacune des étapes en débutant par les personnes et par les tâches qui sont stratégiques. Donc ça c'est la phase 1, déterminer une méthodologie efficace. Phase 2, définir des modalités d'action cohérentes et structurées. Pour chaque tâche analysée, il s'agit de déterminer des modalités d'action qui devraient permettre d'atteindre l'objectif spécifique de façon satisfaisante. Et dans cette étape, il est important de ne pas se préoccuper d'abord des moyens dont dispose votre structure ou des habitudes de cette dernière. En effet, si vous vous centrez d'abord sur ce qu'il faudrait et non sur ce dont vous disposez comme moyen et sur les us et coutumes, vous avez une excellente opportunité pour envisager des moyens nouveaux ou une façon différente d'utiliser des moyens existants. Reprenons l'exemple évoqué dans la première partie. Examinons l'une des modalités d'action retenues. Vous vous souvenez ? La secrétaire reçoit par Internet une copie de chaque bon de commande. En réfléchissant aux moyens nécessaires pour rendre cette action efficace et sûre, il peut être envisagé, par exemple, de permettre à la secrétaire d'utiliser une ligne à haut débit, qu'elle active systématiquement à chacun de ses envois l'option automatique d'accusé de réception et de lecture du message qu'elle a adressé. Or, à ce jour, il est possible qu'aucune de ces deux options ne soit utilisée dans le service. Par exemple, il se peut que les connexions haut débit soient réservées au cadre. Il se peut aussi que personne n'utilise l'option automatique d'accusé de réception. Et vous devez faire une analyse du même genre que celle que je viens de faire pour chacune des tâches. Donc là, il s'agit de la phase 2. Phase 3, comparer le nécessaire et l'existant. Il s'agit de faire la comparaison entre les moyens que vous envisagez et les moyens dont dispose le service. Et il y a deux catégories de moyens. Première catégorie, ce sont les moyens techniques. Et dans les moyens techniques, vous pouvez identifier deux types de moyens. Premier type, ce sont les moyens à la fois nécessaires et disponibles. Donc, ce sont des moyens qui sont définis comme disponibles lorsqu'ils existent et que le chef du service concerné a le pouvoir d'utiliser de façon autonome ou qu'il a l'autorisation de le faire de la part du cadre qui a le pouvoir de les affecter. Cela peut être le cas par exemple de l'option automatique d'accusé de réception. Il y a une deuxième catégorie de moyens techniques, ce sont les moyens nécessaires et non disponibles. Pour pouvoir les utiliser, le responsable du service, ou de l'équipe, ou de la tâche de la mission, doit obtenir l'accord d'une personne, soit d'un supérieur hiérarchique, ou éventuellement d'une personne d'un autre service. Par exemple, la connexion au débit peut être conditionnée à l'accord de la direction générale ou à l'accord du service informatique. Donc nous avons vu une première catégorie de moyens qui est les moyens techniques. Il y a une deuxième catégorie qui est les compétences. Il s'agit de vérifier pour chaque collaborateur s'il dispose des compétences nécessaires pour accomplir chaque tâche et pour utiliser chacun des moyens techniques qui ont été envisagés. Alors comment faire ? La première chose, c'est faire la liste des compétences nécessaires. La deuxième chose, c'est faire l'état des compétences dont dispose la personne. En troisième lieu, détecter les éventuels écarts. Et en quatrième lieu, rechercher des options. Il s'agit là d'envisager les moyens possibles pour traiter cet écart. Si nous reprenons l'exemple au-dessus, pour la secrétaire, imaginons un moyen retenu. Elle utilise Internet pour recevoir et envoyer des informations. Or, en ayant fait le diagnostic que je viens de vous présenter, nous nous apercevons avec elle qu'elle ne sait pas utiliser le logiciel de messagerie électronique pour le faire. Donc, quelles sont les options possibles ? Ça peut être, par exemple, vous la formez à l'utilisation de ce logiciel. Ou alors, vous l'envoyez en formation dans un organisme extérieur. Puis, vous avez, en cinquième lieu, à déterminer l'option que vous retenez. Et là, à nouveau, deux possibilités. Première possibilité, vous avez le pouvoir de mettre cette option en œuvre, donc vous l'actionnez. Deuxième possibilité, vous n'avez pas ce pouvoir. Vous devez donc, à ce moment-là, négocier ce moyen supplémentaire avec les gens qui ont pouvoir pour l'accorder. Nous en venons maintenant à la phase 4, négocier les moyens non disponibles. De mon point de vue, le rôle du responsable du service est alors de négocier avec les interlocuteurs concernés les moyens supplémentaires. Une suggestion, avant de contacter les décideurs, je vous suggère de faire l'analyse de l'ensemble des moyens supplémentaires nécessaires. Cela vous permettra de présenter un plan d'action construit et organisé. Vos démarches seront ainsi plus cohérentes et limitera le risque d'être perçu comme entre guillemets, celui qui n'est jamais content et qui en veut toujours plus. Elle permettra aussi aux décideurs d'être en mesure d'anticiper et donc de planifier et de gérer les engagements financiers éventuels. Voyons maintenant la phase 5, arbitrer, décider. Lorsque vous aurez une vision précise de l'ensemble des moyens dont vous pouvez maintenant disposer, donc après négociation, il vous appartient alors d'arbitrer entre diverses options encore en balance et de décider des moyens spécifiques que vous allez affecter à chaque action concernée. Il reste une dernière étape qui est construire un document de procédure. Donc là, il s'agit de reprendre les modalités d'action qui ont été retenues et de décrire de façon précise les procédures qui seront utilisées à chaque étape de la réalisation de la tâche concernée. Et si le travail a été fait correctement, ces procédures, elles existent déjà. Ce travail de description a déjà été fait. Là, il s'agit de le formaliser par écrit, d'une façon structurée, claire et accessible à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire les gens qui font et les gens qui contrôlent.